Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil et bonne journée sur RMC. Il est 8h.
RMC 7-9, Anaïs Matin.
Le journal avec Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous. Les pompiers toujours à pied d'œuvre pour venir à bout des flammes dans le Var et en Gironde. En parallèle de ces deux feux, la solidarité s'organise avec plusieurs appels aux dons pour venir en aide aux sinistrés. Et puis l'inquiétude de plusieurs pays européens après l'arrivée de 60 000 personnes à Ceuta cette semaine.
Le Var continue de brûler ce matin.
Le feu du Gros Bessillon qui avait été fixé mardi a repris hier. Face à l'avancée des flammes, de nouvelles évacuations, 2500 au total, ont été décrétées. Caroline Renaud à Montfort-sur-Argens, c'est pour certains la deuxième fois qu'ils sont obligés de partir en l'espace d'une semaine.
À peine revenu dans son quartier, le cauchemar recommence pour Rodolphe.
C'est horrible.
Sous ses yeux, son village encerclé par des pins en flammes, tout comme sa maison en flanc de colline.
La colline est embrasée complètement. Moi, j'ai ma maison qui est en dessous, la maison de ma mère aussi. Et bon, les pompiers font ce qu'ils peuvent. Ils arrosent les maisons, je pense. Et le feu reste sur la crête de la colline, mais toute la colline brûle.
Depuis la plaine, le regard tourné vers les largages d'eau. Christelle, elle aussi, évacuée en urgence.
Ah oui, là, c'est vraiment l'apocalypse. Hein. On se croirait en temps de guerre.
À quelques mètres, Brian, au milieu d'un épais nuage de fumée.
La fatigue commence à gonfler parce qu'on est resté une semaine évacué. Ça fait trois jours qu'on est revenu. Ça s'était calmé. Et là, ça repart de plus belle.
Chacun angoisse de tout perdre. On espère que la maison sera encore là quand on reviendra, souffle une autre habitante évacuée pour la troisième fois.
Caroline Renaud pour RMC. Un feu toujours pas fixé mais stabilisé en Gironde, le tout avec des conditions météo favorables. On progresse, on sort la tête de l'eau, a salué la préfète de la Gironde, Sophie Brocas. 198 000 personnes ont pu rentrer chez elles sur les 220 000 évacuées depuis le début de l'incendie. Les campings de la Cano qui avaient dû eux aussi évacuer leurs vacanciers peuvent de nouveau ouvrir, Lucas Laubert.
Camping Les Jardins du Littoral, Valentine, bonjour.
Téléphone vissé à l'oreille pour les trois hôtesses d'accueil du camping.
Bah oui, ça sonne, ça reprend vie.
On a la gorge sèche tellement on part.
Car depuis l'annonce de la réouverture des campings de Lacanau, les vacanciers veulent s'en assurer.
On respire parce qu'on annonce de bonnes nouvelles.
L'équipe du camping a mis les bouchées doubles hier pour que tout soit prêt pour le retour des vacanciers. Bronzette impossible pour l'instant à la piscine. Les 200 bouteilles de gaz étaient stockées ici pour les protéger du feu. Mais maintenant, il faut les réinstaller et c'est Nico qui s'en occupe.
Tout repréparer, faire en sorte que quand ils reviennent, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu.
Faut sortir les bras là.
Ouais, c'est ça, faut sortir les bras, ouais, c'est clair.
Et pour s'assurer que tout est prêt, Myriam Vignol, la directrice, fait le tour du camping dans sa voiturette. Si la fermeture et l'incendie lui ont coûté cher pour la suite de l'été.
Je suis assez confiante. Je pense que, justement, les vacanciers vont jouer le jeu.
Ils lui disent d'ailleurs au téléphone.
On sait que ça a été dur pour vous et on a envie d'être là pour vous. Et quitte à passer nos vacances quelque part, autant qu'on le fasse chez vous.
Ça fait chaud au cœur, conclut Myriam, une lueur dans les yeux. Cette solidarité, c'est ça qu'elle souhaite garder de l'incendie.
Lucas Laubert en Gironde pour RMC.
La solidarité, on en parlait, dans ce contexte, elle s'organise un peu partout.
Ah oui, à l'exemple de Maxime Dubois, patron d'une société de transport dans la région toulousaine, il lançait ce jeudi un appel aux dons sur notre antenne pour venir en aide aux sinistrés de Gironde et des Landes. Eh bien, la collecte aura bien lieu. Elle est organisée sur le parking du Leclerc de Roufiac, à côté de Toulouse, samedi prochain. Léa Dubois, la femme de Maxime, témoigne. Écoutez.
On a reçu énormément d'appels et de messages avec énormément de personnes qui souhaitent nous donner des vêtements, de la nourriture, des denrées non périssables, même des meubles. Enfin, on a vraiment connu un énorme élan de générosité. On pensait pas que ça prendrait une telle ampleur, mais tant mieux finalement si on peut toucher plus de monde que ce qu'on avait prévu, parce qu'on pourra aider du coup plus de monde dans les personnes sinistrées. Alors nous, ce qu'on aurait besoin à l'heure actuelle, c'est d'un contact, d'une association ou d'une mairie ou d'une personne dans la région bordelaise, des Landes, de la Gironde, de quelqu'un qui serait prêt à nous accueillir et dans lesquels on pourrait du coup amener tous les dons qu'on aurait récoltés à Toulouse.
Près de 50 000 personnes ont quitté Ceuta jeudi. 60 000 migrants avaient rejoint cette enclave espagnole située au nord du Maroc. Philippine Boulet, cette situation impacte fortement ce territoire grand d'à peine 19 km².
Entre les commerces fermés, les habitants qui préfèrent rester chez eux par peur des vols, Javier dit ne plus reconnaître sa ville. Alors, hier, il a quitté temporairement Ceuta.
J'ai décidé d'embarquer sur un ferry parce que je me sentais plus en sécurité là-bas. J'avais peur de sortir, il y avait tellement de monde, des militaires dehors. C'était insupportable, pour être honnête.
En parallèle, les retours vers le Maroc se poursuivent. Selon le gouvernement espagnol, une grande majorité des migrants arrivés jeudi soir sont déjà rentrés de l'autre côté de la frontière. Mais ce n'est pas le cas d'Essam, arrivé de Tanger.
Au début, je voulais rentrer au Maroc, mais j'ai changé d'avis. Je veux rester ici, en Espagne. C'est décidé, je ne retournerai pas au Maroc, je n'en ai pas envie.
Selon le gouvernement espagnol, cette arrivée massive aurait été déclenchée par une rumeur largement diffusée sur les réseaux sociaux, selon laquelle la frontière entre le Maroc et l'Espagne était ouverte.
Et Philippine Boulet pour RMC.
Et puis on va essayer de comprendre comment expliquer cette crise tout à l'heure à 8h40. Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes et internationales, est mon invité sur RMC, donc rendez-vous à 8h40.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, renonce à son projet de vendre les droits de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Antoine Sabardin, l'annonce a été faite cette nuit.
Oui, c'est ça, il était 1h30 précisément quand le communiqué de la FIFA est arrivé. Une déclaration même de Gianni Infantino. Il est devenu clair que le projet a créé des divisions qui ne sont plus dans l'intérêt de l'objectif initial. Un projet présenté mardi à la surprise générale, vivement critiqué sur le fond comme sur la forme depuis. Alors le président de la FIFA a donc choisi de rétro-pédaler. Notre but a toujours été et sera toujours d'unir et de progresser, dit-il. La proposition ne sera donc pas retenue. Une décision saluée ce matin par la Confédération Asiatique qui avait rejoint le camp des frondeurs. Pour rappel, de nombreuses fédérations, dont les 55 d'Europe, ont menacé de boycott. Des proches d'Infantino ont quitté le navire. Carlos Cordero, par exemple, son plus proche conseiller. Quand le numéro 3 de la FIFA, le français Kevin Lamour, mettait la pression à son patron. Il y a encore quelques jours, Gianni Infantino était le grand favori à sa propre succession lors des élections de mars prochain. Ces dernières heures, la donne a peut-être changé pour le Suisse, l'homme le plus puissant de la planète football.
Les précisions d'Antoine Sabardin pour RMC.
8h06 sur RMC. Qui pour succéder à Pauline Ferrand-Prévot?
Excellente question, Martin. Bah, on aura un début de réponse aujourd'hui, à partir de 14h, avec le début du Tour de France Femmes, le 5e sous cette appellation. Et ça, c'est une fierté pour la directrice de cette grande boucle, Marion Rousse.
J'ai vraiment hâte de pouvoir donner le coup d'envoi de cette 5e édition et on est vraiment attendu. J'ai l'impression que chaque année, c'est de plus en plus fou. L'attente est de plus en plus grande. Je sais que ô combien on prend du plaisir à regarder les courses féminines. Donc on a eu un peu le post-déprime après l'arrivée sur les Champs-Élysées dimanche. Et donc il a fallu attendre 5 jours pour enfin voir le départ du Tour de France Femmes à Exist.
Les meilleures coureuses du peloton sont attendues à Lausanne pour le grand départ de ce Tour de France Femmes prévu à 14h15 précisément. C'est une étape à suivre sur RMC, bien sûr.
Dans l'intégral Tour à partir de 15h, évidemment. Venez nous le dire, tiens, d'ailleurs, au 32-16, est-ce que vous allez le regarder, ce Tour de France Femmes? Est-ce que vous allez suivre les exploits, on espère, de Pauline Ferrand-Prévot? Venez nous le dire au 32-16 et sur WhatsApp 0612 424 424. 8h07, on joue tout de suite ensemble.
RMC, le blind text.
Le blind text, vous connaissez le principe. Nous, on vous passe un extrait d'une parole, de paroles de chansons interprétées par un comédien, avec un ton qui n'a évidemment rien à voir avec la musique normale. Et vous, votre objectif, c'est de deviner de quel titre il s'agit.
Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sorte un peu de la banalité. J'en ai assez de ce carcan. Ils m'enferment dans toutes ces règles. Ils me disent de rester dans la norme, mais l'on finit par s'y ennuyer.
Bon, normalement, vous n'avez pas besoin d'une grande culture musicale pour reconnaître ce titre. Donc, vous envoyez le mot texte par SMS au 732-16 et vous aurez peut-être l'occasion tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes, de gagner un an d'abonnement dans les salles Basic Fit. On vous l'offre à l'occasion du départ du Tour de France féminin, puisque Basic Fit est partenaire fitness officiel du Tour de France femmes avec Swift. Donc, on vous offre un an d'abonnement pour vous entraîner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plus de 300 clubs en France. Pour tenter de remporter ce joli cadeau, vous envoyez texte par SMS au 732-16. Texte par SMS au 732-16. Je prends un gagnant avec nous donc dans moins de 20 minutes pour voir s'il a la bonne réponse. 8h09 sur RMC, l'heure de prendre la route des vacances, route noire de monde. Aujourd'hui, partout en France, nous dit Bison Futé. La directrice générale de la Fondation Vinci Autoroute est avec nous sur RMC dans un instant pour nous aider à ce que le voyage se passe au mieux. A tout de suite dans Anaïs Matin.
RMC jusqu'à 9h. Anaïs Matin.
Martin Bourdin.
Très bon réveil, bonne route aussi peut-être sur RMC, il est 8h10.
RMC,
L'invité du jour.
Parce que vous nous écoutez peut-être ce matin depuis votre voiture, direction les vacances, la plage, la montagne, la campagne, en tout cas peut-être le repos au bout de la route. La bonne nouvelle, c'est que vous avez bien fait de mettre RMC. D'ailleurs, vous faites le 32-16 hein, quand vous faites une pause pour nous dire un peu comment ça se passe, cette route. La mauvaise nouvelle, bah, c'est que vous n'êtes pas tout seul sur la route. Bonjour Julie Lecomte.
Bonjour.
Vous êtes la déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute. Merci beaucoup d'être avec nous dans le studio RMC ce matin, ce samedi noir. Donc sur la route des départs, des millions de voitures vont emprunter les autoroutes, notamment du réseau Vinci. Tous les ans, c'est pareil. Ce premier week-end, c'est le grand rush. Julie Lecomte, cette année, n'échappe pas à la règle.
Oui, évidemment, on est sur un week-end de chasse et croisée, donc il y aura du monde sur la route, ça c'est sûr. C'est pour ça que la Fondation Vinci Autoroute sensibilise les automobilistes, notamment à un risque en particulier qui est la somnolence au volant. Et je redonne un chiffre aux auditeurs qui est assez marquant, c'est que la somnolence, c'est responsable d'un accident mortel sur 5 sur autoroute. C'est pour ça qu'on incite vraiment les vacanciers à faire des pauses toutes les deux heures, pardon, et dès les premiers signes de fatigue.
Et d'ailleurs, je voyais qu'il y avait certaines aires du réseau où il y avait des transformées en aires repos, en fait, où oui. On pouvait vraiment faire une sieste, enfin, être vraiment pris en charge pour se reposer au mieux, plus qu'avec une tasse de café.
C'est ça. En fait, on a 11 espaces sieste au niveau de la Fondation Vinci Autoroute. On distribue même des kits sieste, c'est-à-dire des masques pour les yeux, des bouchons d'oreilles. Le but, c'est de faire prendre conscience aux vacanciers qu'une petite sieste de 15-20 minutes, c'est réparateur et ça permet de reprendre la route en sécurité. Parce qu'on ne peut pas lutter contre une pression de sommeil. On a l'impression qu'on va mettre la musique plus fort, on va écouter RTL plus fort,
RMC
plus fort, pardon. On va écouter la radio, on va passer même un coup de fil, ce qui est complètement déconseillé. Et en fait, finalement, ça ne va pas marcher. Et même le café ne va pas marcher. Mmh. Ce qui est vraiment réparateur, c'est de faire une pause et de dormir 15-20 minutes.
Ces aires de repos, ça ressemble à quoi les endroits où on peut se reposer là, c'est quoi? C'est en gros des petites chambres qui sont aménagées sur les aires d'autoroute?
Alors oui, c'est des espaces très confortables avec des cocons, des grands coussins. On distribue des kits sieste. On a un podcast d'accompagnement à la détente qui permet de vous détendre, qu'on peut retrouver sur le site de la Fondation Vinci Autoroute. Et le but, c'est vraiment que les automobilistes qui sont fatigués s'arrêtent et prennent la route, reprennent la route en sécurité. Donc ça, c'est important.
On peut retrouver où? Vous disiez, il y a 11 aires qui sont concernées. On peut la retrouver où, la liste?
Alors, sur le site de la Fondation Vinci Autoroute ou de Vinci Autoroute.
Parfait. À cette occasion, ce grand départ de ce grand week-end de chasse et croisée, vous venez de publier une étude sur l'attitude des automobilistes en voiture sur la route des vacances. Et le constat, finalement, il est assez triste. Un Français sur quatre reconnaît encore jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture. Comment vous l'expliquez, ça?
Alors, ce qui est marquant, c'est en effet l'écart entre une forte conscience des enjeux environnementaux chez les Français. La majorité ont conscience des enjeux environnementaux. Et malgré tout, comme vous le dites, encore 25% des Français qui jettent leurs déchets par la fenêtre.
Donc, vacances, j'oublie tout.
Voilà. Alors, c'est pas forcément que pendant les vacances. Ils jettent leurs déchets par la fenêtre. Donc, il y a vraiment un écart. Et c'est là qu'on voit que la sensibilisation, elle est importante. Et c'est pour ça qu'on distribue des cendriers de poche. Nous, ce qu'on dit aux vacanciers, c'est que, il faut conserver leurs déchets. Il y a une poubelle toutes les 10 minutes sur le réseau Vinci Autoroute. Donc, ça nécessite de garder son déchet quelques instants dans la voiture. Ensuite, sur les aires d'autoroute, elles sont toutes équipées de poubelles de tri. Donc, il faut trier. Et bien sûr, ne pas jeter son mégot par la fenêtre et utiliser un cendrier de poche ou tout autre récipient. Et c'est pour ça qu'on a une opération qui s'appelle Stop Mégot.
Oui, alors cette opération elle est particulièrement importante parce que évidemment je parlais des déchets, mais dans ces déchets il y a beaucoup de mégots. C'est pas que des trognons de pommes qu'on jette par la fenêtre, c'est aussi des déchets, des mégots. On le sait, on le voit, ce qui se passe dans le Var, ce qui se passe en Gironde évidemment. Faites très attention à ça. Malheureusement, aujourd'hui, des mégots, vous en retrouvez régulièrement sur les bords d'autoroute.
Tout à fait. Alors les mégots, on avait fait un relevé. En fait, sur l'A8, il y avait 100 mégots qui étaient ramassés par kilomètre et par sens de circulation. Donc vous imaginez qu'il y a encore beaucoup trop de mégots qui sont jetés. Et quand on jette son mégot, on a l'impression que ça ne va pas avoir d'impact. Or, quand on jette un mégot par la fenêtre de sa voiture, il faut garder en tête qu'il peut parcourir 400 mètres en 5 minutes. Ça veut dire que si on est près d'une zone boisée, et malheureusement c'est souvent le cas sur le bord des autoroutes, où il y a toujours de la végétation, évidemment ça peut avoir des conséquences dramatiques, comme on l'a vu ces dernières semaines.
Est-ce que les gens, là, on parle depuis... 3 semaines, 1 mois maintenant de ces incendies gigantesques, et notamment depuis 10 jours de celui de Gironde qui a parcouru 42 000 hectares. On parle beaucoup des incendies, on en est à la 3e vague, il y a eu 3 canicules, on en a eu une 4e vague de chaleur là cette semaine. Est-ce que les gens sont plus réceptifs à ça? Est-ce que dans les retours que vous avez, vous sentez qu'il y a une vigilance particulière ou pas forcément?
Alors ce que révèle notre enquête, c'est que malheureusement, bien qu'un tiers des Français aient été affectés directement ou indirectement par des incendies. Malgré tout, on reste toujours à cette proportion. Alors, c'est un fumeur sur 4 ou sur 5. Cette année, on est sur un fumeur sur 5. On a du mal à changer ses comportements. Et c'est pour ça qu'avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, on sera présent là sur une dizaine d'aires du réseau Vinci Autoroute jusqu'au 8 août. Pour distribuer ces cendriers de poche, pour faire de la sensibilisation, pour faire comprendre qu'en fait, ce n'est pas un geste anodin et que ça peut avoir des conséquences dramatiques.
Et ça fait toujours du bien de le rappeler, que ce n'est pas un geste anodin, évidemment, notamment par les temps qui courent, cette sécheresse, cette canicule à répétition, les incendies qui suivent. Juste un mot aussi également sur l'A63 qui a rouvert jeudi en Gironde après les incendies. Là, c'est une zone aussi où il y a une vigilance particulière ce week-end ou pas forcément?
Alors en fait, tout l'été, on a une vigilance particulière. Et maintenant, en fait, auparavant, on était centré sur l'arc méditerranéen par rapport à cette opération Stop Mégo. Aujourd'hui, en fait, on va partout. On voit que les incendies ils concernent l'ensemble du territoire. On aura même des opérations dans la Sarthe, en Sologne, donc évidemment en Gironde. Donc si vous voulez, on est partout et il n'y a pas une zone à privilégier. En fait, c'est un geste qui peut avoir des conséquences dramatiques où qu'on soit, parce que la sécheresse, maintenant, elle concerne l'ensemble du territoire.
Merci beaucoup, Julie Lecomte, d'avoir été avec nous ce matin. Juste un dernier mot, évidemment, on en a parlé, mais si on doit rappeler les trois gestes là, pour nos auditeurs qui sont sur la route ou qui vont prendre la route aujourd'hui ou dans les prochains jours, les trois gestes à faire pour que la route se passe bien.
Alors moi je dirais partir reposé, et ça c'est important. Si on n'est pas reposé, si on peut, on reporte son départ. S'arrêter toutes les deux heures à minima ou dès qu'on a les premiers signes de fatigue. Donc vraiment ça c'est important. Somnolence, inattention, il faut faire attention. Et ne pas utiliser son téléphone au volant. Parce que 2 secondes d'inattention quand on roule à 130 km/h, c'est comme si on parcourait 72 mètres sans regarder la route. Et donc ça peut avoir des conséquences dramatiques. On peut ne pas anticiper les dangers. Et même pour la sécurité des intervenants sur autoroute, ça peut avoir des conséquences dramatiques avec les heures de fourgon.
Et on sait que lors de ces gros week-ends de départ en vacances, généralement l'accidentologie augmente malheureusement sur les routes de France. Merci beaucoup d'avoir rappelé ces conseils qui sont du bon sens mais qui sont importants à rappeler lors des gros week-ends de chasse et croisée. Merci beaucoup, Julie Lecomte. Très bonne journée, bon été également sur les routes du réseau Vinci Autoroute. Vous êtes la déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute. Surtout, bonne route à tous ceux qui prennent la direction des vacances aujourd'hui. Soyez prudents. Puis appelez-nous, vous nous dites au 3216 comment ça se passe quand vous vous arrêtez toutes les deux heures. On a dit au maximum, même si vous voulez vous arrêter un petit peu avant, toutes les demi-heures pour nous appeler pour faire un point. Évidemment, vous avez le droit. 8h17 sur RMC. Dans un instant, on va jouer ensemble. On va voir si l'un d'entre vous a retrouvé le tube qui se cache derrière le blind text du jour. Et puis, on continue d'arpenter vos villes cet été. Faire un premier bilan 4 mois après les élections. Certains engagements ont-ils déjà été tenus? On verra si le nouveau maire de droite à Brest a tenu sa promesse de créer une police municipale. A tout de suite sur RMC.
RMC, Anaïs Matin,
Martin Bourdin.
Merci de vous réveiller avec RMC. Il est 8h20. Avant d'accueillir le gagnant du blind text, voici les trois grands titres à retenir ce matin. Un feu qui défie l'entendement et qui progresse à la vitesse d'un cheval au galop. Les mots du préfet du Var alors que l'incendie du Gros Bessillon a repris hier. 2500 personnes évacuées en Gironde. En revanche, les autorités se veulent optimistes et comptent sur une météo favorable aujourd'hui pour venir à bout du feu qui a ravagé 42 000 hectares. Environ 60 000 migrants ont afflué ces derniers jours dans l'enclave espagnole de Ceuta sur le littoral marocain. Les autorités espagnoles affirment que 48 000 d'entre eux sont déjà retournés au Maroc. Cette situation a aussi conduit à des tensions diplomatiques entre Rome et Madrid notamment. Et puis face aux oppositions, Gianni Infantino recule. Le président de la FIFA a annoncé dans la nuit renoncer à son projet d'ouvrir la FIFA à des investisseurs privés. 8h20 sur RMC. Tout l'été à cette heure-là, on vous emmène en reportage près de chez vous, 4 mois après les élections municipales.
RMC,
dans vos villes.
Les premières mesures concrètes des maires élus ou réélus en mars dernier, direction Brest ce matin à la Pointe Bretonne dans le Finistère, où un maire d'hiver droite, Stéphane Roudot, a mis fin à 37 ans de socialisme lors des dernières élections municipales. Un maire élu sur une promesse, Martin Lange, doter la ville d'une police municipale.
Oui, c'était la mesure phare de son programme, certains parlant même d'un référendum pour ou contre la police municipale, car Brest était la seule ville de France de plus de 100 000 habitants dépourvue d'une telle force, le maire Stéphane Roudot.
On met fin à une forme d'anomalie. On a besoin à peu près toutes les semaines d'une police municipale qui discute, qui tempère, qui encadre aussi des grands événements.
Dans le centre-ville, les habitants voient globalement d'un très bon œil la création de cette police municipale.
C'est une très très bonne chose. On voit que la délinquance arrive petit à petit, notamment en centre-ville. C'est pas de la violence, mais c'est un petit peu de bazar. Moi, personne d'un certain âge, il y a des choses que j'hésite à faire parce que je me sens plus effectivement en sécurité.
C'est une
une mesure qui est demandée par beaucoup de Brestois. Après, c'est une ville relativement tranquille. Pas Chicago non plus. Simplement, il y a des quartiers et des zones de Brest où on se sent en insécurité. Je pense qu'une présence est nécessaire dans la rue, oui, tout à fait. Ça rassure les gens.
Un peu plus loin, Lionel, lui, est plus sceptique.
Il aurait mieux valu avoir plus d'effectifs de police nationale. Je suis pas sûr que ça règle beaucoup de soucis, en fait. Je pense que ça va permettre de taper sur des petites incivilités, quoi. Les chiens non tenus en laisse ou les barbecues sauvages, etc. Après, pour tout ce qui est trafic et compagnie, je vois pas trop la police municipale y aller, quoi.
Ça ne sera d'ailleurs pas son rôle, estime le maire, pour qui les policiers municipaux seront avant tout là pour soulager leurs collègues.
On a 13 points de deal aujourd'hui à Brest. Et donc je préfère que la police nationale se concentre sur le démantèlement des trafics de stupéfiants. Parce qu'on a une police municipale, les policiers municipaux vont pas instruire les affaires de narcotrafic, mais vont permettre aux policiers nationaux d'avoir plus de moyens pour instruire justement ces affaires-là.
Une aide bienvenue selon Yann Dupont, il est secrétaire départemental du syndicat Alliance Police.
Il y a des missions aujourd'hui qu'on a du mal à assurer, notamment au niveau des fourrières. Le cœur du métier, c'est les enquêtes, c'est la partie judiciaire, c'est le maintien d'ordre, avec une rentrée sociale qui s'annonce chargée. Donc forcément, cette aide est primordiale aujourd'hui.
La création de cette police municipale a été entérinée en conseil municipal fin juin. Désormais, le maire veut la rendre opérationnelle.
Déjà, on n'a pas traîné. En 3 mois, on a réussi à écrire ces conventions avec l'État, avec le sous-préfet, la police nationale, le procureur. Donc en 3 mois, on s'est doté d'un plan de bataille. Les recrutements sont lancés. On va avoir les premiers entretiens d'embauche fin août, début septembre. Nous aurons les premiers agents pour les fêtes de fin d'année. Puis on va monter en puissance à raison de 20-25 agents tous les ans sur les 6 prochaines années.
Objectif 150 agents à la fin du mandat en 2032. Une police municipale qui sera armée, une nécessité aujourd'hui selon l'édile, alors que Brest a, comme d'autres villes françaises, été touchée par des fusillades ces derniers mois.
Reportage signé Martin Lange à Brest pour RMC. Et vous le retrouvez évidemment, ce reportage, comme tous les autres reportages RMC dans vos villes cet été, en podcast sur l'appli RMC. 8h24.
RMC, le blind text.
Et bonjour Lise.
Bonjour.
Depuis la Manche, depuis Cherbourg, comment ça va ce matin?
Ça va très bien, merci.
Bon, ça va peut-être aller encore mieux dans un instant, puisque vous avez été tiré au sort pour jouer au blind text avec nous. Vous le savez, vous connaissez le principe. On vous fait écouter les paroles d'une chanson interprétée par un comédien. Le ton est évidemment bien différent que celui de la chanson. Et vous, vous devez trouver le titre dont il s'agit. On va réécouter l'extrait.
Okay.
Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sorte un peu de la banalité.
Bon, on va pas aller plus loin parce que normalement vous l'avez déjà trouvé, Lise, ce texte. Il y a Flora Moussi qui est avec nous pour les grandes
du sport. Mais je l'ai pas du tout, c'est la première fois.
Lise, aidez Flora, oui. C'est quoi ce titre?
C'est Partenaire particulier qui chante Partenaire particulier.
Oui. Après, on est dans les années 80, là.
Oui. Mais moi, je l'avais pourtant. Je suis pas un grand mélomane, mais je l'avais reconnu. Anthony, au bout du deuxième mot, il l'avait trouvé. Félicitations, Lise!
Merci beaucoup.
Bon, vous remportez un an d'abonnement dans une salle de sport Basic Fit, partenaire fitness officiel du Tour de France Femmes avec Swift, l'un des 300 clubs de France. Vous ouvrira donc ses portes 24h sur 24, 7 jours sur 7, Lise.
Super, merci bien. Merci beaucoup. Bon
et
week-end.
Merci à vous, merci d'avoir joué. Très bel été sur RMC. Merci. Excellente journée également depuis la Manche à Cherbourg.
Jouez au blind text sur RMC et gagnez un an d'abonnement dans le club Basic Fit de votre choix. Basic Fit, parrain du classement par équipe et partenaire fitness officiel du Tour de France 2026.
8h25 sur RMC. Bon, elle n'a pas réussi à trouver.
Je l'ai dans la tête pour toute la journée.
Oui, là, c'est parti. Là,
c'est l'autre problématique.
Oui, ça, c'est un autre problème. Tu vois, tout à l'heure, on a passé les croco-croco.
Non.
Voilà, c'est la musique que j'écoute quand je pars en vacances, figure-toi, parce que j'ai le fils
tu
derrière.
N'as pas le choix.
Non, j'ai pas le choix. Je suis pas maître à bord. Flora, t'es pas là pour nous parler de musique, t'es pas là pour nous parler de sport.
Bien,
a priori. Mais... Bon, tu peux, hein, remarque, mais.
A priori, oui, je vais parler de sport tout à l'heure, dès 9h. 9h jusqu'à midi, les grandes gueules du sport avec Fred Veil, Cédric Emence et Jérôme Pinon. On va parler du scandale autour de Gianni Infantino qui a renoncé à son grand projet, évidemment, de vendre des parts de la Coupe du Monde. Notamment, on en parlera. Est-ce que le business va finir par vous dégoûter du football? On parlera du Tour de France Femmes aussi qui démarre aujourd'hui depuis Lausanne. Est-ce que l'intérêt de ce Tour de France repose uniquement sur la présence de Pauline Ferrand-Prévot, notre Française tenante du titre? Puis on parlera de Zizou. Zizou, c'est Zizou. Tu sais, il l'a dit, Martin. Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec Zinedine Zidane? C'est la question qu'on se posera aujourd'hui, sans oublier le vestiaire. Les GG nous parleront de ce qu'ils font, ce qu'ils faisaient plutôt quand ils étaient sportifs de haut niveau et qu'ils étaient en vacances. Ça nous arrive pas souvent, ça, Martin.
Non, bah non, ça. Ouais, peut-être. Ouais, les sportifs, ça leur arrive pas souvent aussi. Non, des fois, il y en a certains qui prennent pas beaucoup de vacances. Toi, tu parlais du Tour de France femme. Il y a Loïc qui nous écrit, bien sûr, je vais regarder le Tour de France femme tellement mieux que le masculin. Et puis, ce qui est génial, c'est de voir tous ces beaux paysages de notre belle France également. Loïc qui est visiblement un petit peu nostalgique de la grande boucle homme qui s'est finie la semaine dernière.
Exactement.
Merci Flora, rendez-vous à 9h pour les grandes gueules du sport. Mais d'abord, dans l'analyse matin, on va revenir sur ces dizaines de milliers de migrants qui ont pris d'assaut Ceuta. Vous avez sûrement vu passer ces images hier. Comment expliquer ce qui s'est passé? On essaie de décrypter tout ça à 8h40 avec le spécialiste des questions européennes et internationales, Patrick Martin-Jeunier. Ce sera juste après la météo et le journal sur RMC. À tout de suite. Le point sur vos conditions de trafic, Lucas, parce qu'on a le pied sur le frein déjà.
Oui, c'est difficile. D'abord, dans le centre de la France, si vous roulez sur l'A71 en direction de Clermont, prévoyez des ralentissements quand vous passez à hauteur de Rion. Ça coince aussi sur l'A75 en direction du sud, au niveau de Beaumont et d'Issoire. Dans le quart sud-est, le trafic reste très ralenti sur l'A7 entre Lyon et Orange. Vous levez le pied également dans le Gard au niveau de l'échangeur entre l'A54 et l'A9 en direction de l'Espagne. Du côté du Pays Basque, vous levez le pied aussi sur l'A63 vers le sud. Prévoyez beaucoup de ralentissements au passage de Bayonne. Et on termine avec l'île de France où le trafic reste ralenti pour quitter la région par l'A10, notamment vous donner deux premiers coups de frein à partir de Massy. Bonne route avec RMC.
Journée noire sur la route, vigilance orange dans le sud-est.
Exactement, pour la canicule encore entre la Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence, Alpes-Côte d'Azur et Corse, le Gard sera ajouté aussi à la liste à partir de midi et il fera dans ces régions souvent 33 à 36 degrés, localement jusqu'à 39 dans l'intérieur des terres près de la Méditerranée, donc évidemment on adapte son comportement sur les routes, mais pas seulement. Le soleil va s'imposer presque partout aujourd'hui, on aura juste quelques averses sur le nord-est, sur les Alpes, un orage possible sur les Pyrénées, les quelques grisailles présentes ce matin du Pays Basque au Piémont pyrénéen vont très vite se dissiper. On aura juste un voile de nuages sur la moitié nord. Toujours du vent aussi près de la Méditerranée où le risque de feux de forêt est élevé dans 8 départements dont le Var. Et puis en dehors du sud-est, il fera chaud aussi mais ce sera plus raisonnable. 31 à Agen, 30 à Strasbourg, 29 à Paris, 27 à Lille.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Très bon réveil, bonne journée sur RMC, il est 8h30.
RMC 7-9, Anaïs Matin.
Grégoire Morelli nous rejoint pour un nouveau journal. Bonjour Grégoire.
Bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous. Des renforts de pompiers attendus dans le Var pour lutter contre le feu du Gros Bessillon. En parallèle, la situation semble se stabiliser en Gironde. L'Italie et la France durcissent leur contrôle frontalier avec l'Espagne après l'entrée illégale de quelques 60 000 migrants à Ceuta cette semaine. Enfin, début du Tour de France femmes aujourd'hui.
Un feu qui défie l'entendement.
Et ce sont les mots du préfet du Var face à la reprise de l'incendie du Gros Bessillon. En quelques heures à peine, il a parcouru hier près de 1000 hectares et engendrait de nouvelles évacuations dans la zone. La nuit a donc été difficile pour le maire de Montfort-sur-Argent, Philippe Chuyen, qui a dû faire, lui, évacuer sa commune. Une nouvelle fois, il a témoigné ce matin en direct sur RMC.
On n'a pas dormi, quasiment pas. 90% du territoire de la commune boisée, détruite. C'est comme s'il y avait eu un mauvais sort qui se jetait sur le village. Un vent d'orage, un vent du diable s'est levé, qui soufflait comme des braises sur le village. Et le village, en très peu de temps, en quelques heures, s'est vu encerclé par les flammes. Là, le vent va se lever. Le Mistral est attendu pour cet après-midi. Une chaleur de 40 degrés aussi. Donc là, ça va être une nouvelle journée de lutte, quoi.
Le maire de Montfort-sur-Argent, Philippe Chuyenne.
Et si vous êtes dans le secteur, dans le Var, ou en Gironde également, si vous avez été évacué récemment là dans le Var, appelez-nous ce matin au 3216, venez témoigner, venez nous raconter ce que vous voyez autour de vous, comment s'est passée l'évacuation. Évidemment, vous avez la parole au 3216 et puis en Gironde, si vous avez pu, au contraire, rentrer chez vous parce que la situation semble s'apaiser un petit peu. Là aussi, vous nous appelez au 3216 et vous laissez vos messages 0612 424 424.
Et au total, sachez-le, ce sont 3300 pompiers qui sont mobilisés en ce moment. 267 d'entre eux ont été blessés en luttant contre les flammes. Marion Gauthier, pour RMC, a rencontré des familles de ces soldats du feu qui craignent pour la santé de leurs proches.
Il veut parler des flammes qui encerclaient son village, de ses enfants qui y étaient mobilisés. David a refusé d'évacuer.
Quand on me dit qu'il va falloir partir à un moment donné, quand ça brûle ici, il faut que tu t'en ailles, non. Ma maison, si elle brûle, elle brûlera. Mais moi, je ne laisse pas mes enfants. Je ne peux pas partir en disant je vais me mettre à l'abri, je laisse mes enfants dans le feu. Même s'ils sont pompiers, je ne pouvais pas.
Rester, prendre un tuyau d'arrosage pendant que les camions rouges s'enfoncent dans les pinèdes.
Je sais qu'ils ont fait le maximum. Tous les pompiers du Porche, ceux de la Canon, ils ont été courageux.
Vous avez de la fierté pour eux ?
Ah oui, j'ai fait deux beaux enfants et deux beaux pompiers.
Ses yeux sont humides, ceux de Blandine aussi. Son mari est pompier. La mort récente de deux collègues et amis ont décuplé l'inquiétude de leur fille.
Elle a eu très peur parce qu'elle m'envoyait des messages en me disant qu'elle voulait pas que son papa meure.
Son menton tremble.
Donc oui.
Vous aussi, vous avez eu peur ?
Ah oui, même si j'essaye de pas y penser, dans la nuit, il m'a appelé en me disant « T'inquiète pas, tout va bien ». Et il a raccroché. Et là, je me suis dit « Il se passait quelque chose ». Je n'ai jamais ce genre de coup de téléphone. Cette semaine a été particulièrement différente puisque c'est notre commune qui a été touchée. Je l'ai senti un peu impuissant.
Ce soir-là, son mari doit rentrer après des jours à seulement se croiser.
Dans l'actualité également, le patron de la FIFA qui renonce à vendre les droits de la Coupe du Monde à des investisseurs privés après de nombreuses critiques sur le projet de Gianni Infantino de créer une société pour gérer les activités commerciales de la FIFA et d'attirer des investisseurs extérieurs. Le patron de l'instance internationale de football a annoncé le retrait de son projet cette nuit.
RMC 8h34 après l'afflux migratoire à Ceuta, mesures sécuritaires en France et en Italie.
Et Paris et Rome durcissent leur contrôle aux frontières après que 60 000 personnes ont rejoint l'enclave espagnol au nord du Maroc. L'Italie a donc annoncé vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, Romain Cluzel.
En pratique, l'Italie va relancer des contrôles dans les ports et les aéroports, des contrôles ciblés pour le prochain mois seulement pour les ressortissants non européens arrivant d'Espagne. L'Espagne n'est donc pas exclue de l'espace Schengen. C'est d'ailleurs impossible juridiquement. Surtout, cette mesure ne semble pas répondre à la situation de Ceuta, parce que des règles spécifiques y sont déjà prévues. C'est une exception dans l'espace Schengen. Depuis cette enclave espagnole au nord du Maroc, toute personne non européenne doit présenter un passeport en règle ou un visa pour pouvoir rejoindre le continent européen vers l'Espagne ou ailleurs. Malgré tout, le ministre de l'Intérieur français déploie 334 policiers et gendarmes en renfort à la frontière avec l'Espagne. Un déploiement d'anticipation, reconnaît le préfet des Pyrénées-Orientales, puisque aucun flux de migrants vers le continent n'a été signalé.
Romain Cluzel du service politique de RMC.
Le début du Tour de France femme aujourd'hui.
Ah oui, première étape au départ de Lausanne. Lausanne où nous sommes en direct avec Pierre Thévenet. Pierre, le parcours qui part donc de Suisse est très exigeant. Il ne laissera pas de répit aux coureuses.
Oui, un parcours qui est une machine infernale, nous disait même la coureuse française Émilie Morier hier. Parcours qui part de Suisse. Nous commençons trois étapes à Lausanne aujourd'hui entre le lac Léman et le lac de Neuchâtel, puis à Aigle et Genève. Trois étapes pour puncheuses avant que les favorites ne s'expliquent dès mardi sur un contre-la-montre qui créera de vrais écarts. Suivront deux étapes accidentées dans le Rhône et l'Ardèche pour accéder au Mont Ventoux, étape reine de ce Tour de France femme vendredi prochain. L'épreuve s'achèvera à Nice où les Français espèrent voir Pauline Ferrand-Prévot, tenante du titre et championne olympique de cross-country, lever les bras. D'autres Françaises tenteront de s'illustrer, comme la Bretonne Maëva Skiban, victorieuse deux fois l'an dernier, ou la jeune Célia Géry, championne de France à 20 ans seulement.
Pierre Thévenet en direct de Lausanne pour RMC.
Et on suivra évidemment ce Tour de France femme, évidemment, sur RMC. Rendez-vous dès 15h aujourd'hui dans l'intégral Tour autour de Johan Bredov, Pierre Thévenet et Maria Azé. Évidemment, vous ne raterez rien de ce Tour de France femme. 8h36. Merci beaucoup, Grégoire. Je voulais qu'on fasse un petit détour par les Deux-Sèvres. Retrouver Nadège au 32-16. Bonjour Nadège.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nadège, vous êtes la femme de l'un des nombreux pompiers mobilisés ces derniers jours sur l'incendie de Gironde. Je voulais vous donner la parole ce matin pour comprendre ce que vivent les proches de pompiers dans ces moments-là. Nadège, comment est-ce que vous avez vécu ces journées longues, j'imagine, où votre mari était face aux flammes ?
Eh ben, les journées ont été sur le stress, l'inquiétude. Et puis rassuré quand il arrivait à m'écrire un message ou un petit appel pour rassurer.
Ouais, vous arriviez quand même à avoir des nouvelles de temps en temps, parce qu'on l'a dit toute la semaine, hein, y a pas vraiment de moment de moment off, de repos pour les pompiers quand ils sont face aux flammes.
Ben, dès qu'ils pouvaient. Bon, généralement, c'était vraiment une ou deux minutes dans la journée.
Et ça, ouais, j'imagine que ça faisait du bien parce que c'était possible de penser à autre chose à ce moment-là.
Mais quand j'étais au travail, ça allait, mais c'est quand même compliqué. On sent que on est au travail, mais qu'on pense quand même à eux et qu'on sait ce qu'ils subissent là-bas.
Comment s'est passé son départ ?
Le départ a été assez spécial. J'ai senti que c'était vraiment pas une mission comme d'habitude. J'ai senti que c'était vraiment une mission qui allait être importante. Et c'était pas tout à fait le même.
C'était pas tout à fait le même. Il sentait lui aussi. D'ailleurs, je sais pas, il est rentré là ?
Oui, il est là.
Il est rentré, il est à côté de vous ?
Il est à côté de moi.
Est-ce qu'on peut éventuellement lui dire un mot ?
Bien sûr.
C'est Jean-Raymond, c'est ça, hein, votre mari ?
Oui, c'est ça. Bonjour.
Bonjour, Jean-Raymond. Alors déjà, je pense que je parle au ton de tout RMC et surtout de tous les auditeurs. Jean-Raymond, bravo, merci pour votre travail, particulièrement ces derniers jours, particulièrement face à ces flammes qu'on a vues. Comment ça va, Jean-Raymond, ce matin ?
Donc oui, bonjour, ça va bien, ça va. C'est gentil pour votre merci. Merci peut être à tout le monde. Hein. Enfin, c'est tous les bénévoles, les pompiers, les agriculteurs. Vous savez, il y a la sécurité civile, il y a les militaires.
Il y a beaucoup de monde, ouais, j'entends bien.
Tout le monde, parce qu'on parle, c'est vrai, on parle beaucoup des pompiers, mais c'est tout un ensemble. Il y a une solidarité impressionnante là-bas. Et donc, il y a énormément de monde, même des sinistrés qui aident les autres personnes, et ça c'est impressionnant.
Comment ça va vous ce matin, Jean-Raymond ? Vous êtes rentré quand ? Vous arrivez un peu à vous en remettre finalement ?
Oui, ça va. Bon, on est rentré jeudi soir. Mmh. On est rentré jeudi soir tard. On n'a pas été confronté au plus gros de l'incendie, nous, comme dans certains villages, vous savez, comme le Forge.
Ouais.
Bon, donc nous, ça va encore. Hein. Après, malheureusement, on fait que passer. Donc, on reprend notre vie. On a notre confort à la maison. Enfin, on a tout. Ouais, ils n'ont plus rien. Quoi.
On arrive à passer à autre chose. Juste une dernière question rapidement. On voit ce qui se passe dans le Var, cette reprise de feu, ces nouvelles évacuations. Comment vous réagissez quand vous voyez ça ? Est-ce que ça vous inquiète ? Vous dites, on va pas pouvoir souffler en fait cet été ?
Bah c'est vrai que cet été c'est compliqué. Hein. J'ai jamais vu autant d'incendies. Puis de superficie aussi grosse. C'est la première fois que je vois ça. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué.
Je vous lis le message de Ludo qui nous écrit sur le WhatsApp. L'humilité de ce monsieur, chapeau. Jean-Raymond, c'est le message des messages qu'on lit beaucoup sur le WhatsApp RMC ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous, Jean-Raymond, Nadège. Félicitations à tous les deux pour votre engagement. Merci à tous les deux, en espérant que vous puissiez avoir un peu de repos, un peu de répit dans cet été particulièrement compliqué sur le front des incendies. 8h40 sur RMC. Dans 10 minutes maintenant, le petit déj média de Maxime Guény, qu'on va retrouver tout au long de l'été évidemment. Salut Maxime.
Bonjour, comment ça va ?
Ça va très bien, on parle de quoi ce matin ?
On est samedi et samedi c'est Fort Boyard, évidemment. On va se poser la question ce matin après 36 saisons du programme, pourquoi il cartonne toujours encore ? On vous donne les réponses dans quelques instants.
On a hâte, rendez-vous donc à 8h50. Avant cela, un bout de terre espagnol enclavé sur le littoral marocain, pris d'assaut par des dizaines de milliers de migrants. On va essayer de comprendre ce qui s'est joué hier à Ceuta, décrypter aussi les réactions des différents pays européens inquiets de voir affluer des migrants à leurs frontières. Le spécialiste des relations européennes internationales, Patrick Martin-Jeunier, nous aide à y voir plus clair dans une minute sur RMC.
RMC, 7h-9h, Anaïs Matin,
Martin Bourdin.
Très bon réveil sur RMC, 8h43.
RMC,
l'invité du jour.
Et les images ont fait le tour du monde hier, provoqué des réactions du monde entier. C'est 60 000 migrants débarqués en masse depuis la terre, depuis la mer, dans l'enclave espagnole de Ceuta, un bout de terre espagnol collé au Maroc de l'autre côté de la Méditerranée. Bonjour Patrick Martin-Jeunier.
Bonjour.
Alors ce matin, quasiment tous les migrants sont rentrés au Maroc, plus de 48 000. Mais on a besoin de vous pour décrypter ce qui s'est joué. Aidez-nous, Patrick Martin-Jeunier. Pourquoi des dizaines de milliers de personnes ont rejoint ce territoire tous en même temps ? La première question que je vais vous poser, Patrick Martin-Jeunier, c'est pourquoi maintenant le gouvernement espagnol parle de rumeurs autour de l'ouverture d'un poste aux frontières ? C'est vraiment une rumeur qui a provoqué ce chaos ?
Non, je crois qu'il y a eu effectivement quelque chose de la sorte. Ouverture de frontières, une...
Ah, Patrick Martin-Jeunier, qu'on va retrouver évidemment dans un instant. On va essayer de le retrouver pour décrypter évidemment ce qui s'est joué hier à Ceuta. C'est 60 000 migrants qui ont débarqué en masse depuis la terre, depuis la mer. Le temps pour moi de vous faire un point sur le méga-feu en Gironde. On vient d'avoir des nouvelles de la part des pompiers de Gironde qui nous disent que l'incendie n'est pas fixé, mais qu'il est toujours contenu aujourd'hui, ce matin. La nuit a été clémente. On continue évidemment de suivre cet incendie. Et je me retourne vers vous, Patrick Martin-Jeunier, on vous a retrouvé pour parler de ces 60 000 migrants débarqués en masse dans l'enclave espagnole de Ceuta, en Bouterre espagnole côté au Maroc. On le disait, ça peut être une rumeur qui a déclenché ce chaos.
Écoutez, je ne crois pas que ce soit une rumeur. Ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'il y a eu des au niveau du poste aux frontières entre Ceuta et le Maroc, peut-être un manque de surveillance. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été évoquées. Un acte d'hostilité du Maroc vis-à-vis de l'Espagne, car vous savez que ces deux pays sont en conflit, notamment sur le Sahara occidental. Il y a aussi des gangs criminels qui incitent, moyennant finances, raquettes, les jeunes à partir dans l'Union européenne et donc dans l'enclave de Ceuta en Espagne. Et enfin, plus probablement, l'instrumentalisation, on ne l'a pas assez dit, d'un arrêt, d'une décision du tribunal suprême espagnol, l'équivalent de notre Conseil d'État, qui a dit que dès lors que des migrants arrivaient du Maroc à partir de la mer, ils ne pouvaient être refoulés, ils devaient être acceptés. Et donc, tout ça a alimenté une rumeur, en effet, que, eh bien, décidément, les frontières seraient ouvertes et que donc l'ensemble des migrants pouvaient passer parce qu'il n'y avait plus cette possibilité juridique de renvoyer et de refouler les migrants qui passaient par la mer.
Et ça a provoqué cet afflux de migrants. Les images sont assez impressionnantes. On évoque la plus grosse crise migratoire en Europe. C'est de cette ampleur, de cet ordre-là.
Oui, c'est de cet ordre, parce que même lors de la dernière crise migratoire, c'était entre 10 et 15 000 migrants. Là, on est arrivé à 60 000 migrants en l'espace de 48 heures. C'est tout à fait impressionnant. Lorsqu'on voit ces images d'arrivées massives, essentiellement de jeunes Marocains à Ceuta, c'est véritablement impressionnant. Ce qui fait dire d'ailleurs à l'administration Trump et aux extrêmes droites européennes que nous assistons aujourd'hui à une invasion migratoire, ce qui n'est pas le cas. Il y a une instrumentalisation, mais j'avoue que lorsque l'on regarde ces images, c'est vraiment impressionnant. On a l'impression, si vous voulez, lorsque je regarde ces images, que nous assistons à une guerre hybride migratoire de la même nature que celle que nous avions vue en Biélorussie,
organisée
la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, en... Eh bien, écoutez, une crise migratoire, oui, une guerre hybride, peut-être, n'oublions pas que nous sommes aussi en conflit avec la Russie et que Poutine avait instrumentalisé également une guerre migratoire contre la Pologne. Donc, il ne faut pas exclure une manipulation de Vladimir Poutine. Et en même temps, nous sommes, enfin, en tout cas, l'Espagne est en conflit avec le Maroc, s'agissant du Sahara occidental. Mmh. Ça peut être un coup de semonce également des autorités marocaines, puisque les autorités marocaines n'étaient pas d'accord avec l'Espagne sur le Sahara occidental. Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, s'est rendu à Alger récemment. Ça n'a pas du tout plu aux autorités marocaines. Donc il y a différentes explications. Je pense qu'on est dans le cas d'une guerre hybride migratoire qui peut expliquer ce mouvement soudain d'immigration.
Vous évoquiez, Patrick Martin-Jeunier, la tournure très politique des événements. L'Italie, la Finlande et le Danemark, notamment, ont demandé de suspendre l'Espagne de l'espace Schengen. Oui. On annonce des restrictions. L'Italie, notamment des restrictions par rapport à l'espace Schengen vis-à-vis de l'Espagne, où les hommes peuvent circuler librement, c'est ça, l'espace Schengen, grosso modo. Ça changerait quelque chose ? Est-ce que c'est possible, en fait, tout simplement ?
Non, ce n'est pas possible. L'expression suspension des accords de Schengen est complètement inappropriée, car ce n'est pas ni à l'Italie, ni à la Finlande, ni à quelques pays de décider de suspendre l'Espagne des accords de Schengen, puisque c'est un traité européen et international. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est bien de renforcer les contrôles aux frontières. C'est les articles 25, 26, 27, 29 du règlement d'application Schengen de 2016. Possibilité. Oui, ce qu'ont fait la France et l'Italie, renforcer le contrôle aux frontières, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va suspendre unilatéralement un pays de l'espace Schengen, ce n'est tout simplement pas possible. On peut renforcer le contrôle, ce qu'a fait la France avec l'Espagne, ce qu'ont décidé de faire l'Italie et la France aux frontières. Je rappellerai que c'est quelque chose qui a été fait entre la Pologne et l'Allemagne et l'Allemagne et la France. Lorsqu'il y a un afflux de migrants, eh bien, on peut renforcer ces contrôles.
Merci Merci beaucoup, Patrick Martin-Jeunier, de nous avoir aidé à décrypter finalement tout ce qui s'est passé ces dernières heures à Ceuta. Je rappelle que 60 000 migrants ont débarqué à Ceuta. 48 000, d'après les autorités espagnoles, ont regagné le Maroc ces dernières heures. Merci beaucoup, Patrick Martin-Jeunier. Et bonne journée, bon été. 8h50 sur RMC. Dans un instant, le petit-déj média avec Maxime Guény, notre monsieur média de l'été. On va parler d'un classique de l'été qui cartonne. Ça se passe dans un fort et les concurrents doivent amasser le maximum de boyards. Normalement, vous savez de quoi on va parler dans une minute sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Anaïs Matin.
Martin Bourdin.
8h51 sur RMC et tout l'été à cette heure-là, c'est Maxime Guény qui nous rejoint.
RMC, le petit-déj média.
Salut Maxime.
Salut Martin.
Maxime, ce matin, on va parler d'un monument de la télévision française qui existe depuis 36 ans. 36 ans après son lancement, il suffit encore de ces quelques notes pour reconnaître immédiatement cette émission.
Sortez, sortez, sortez. On parle bien sûr de Fort Boyard. Et ce générique continue de rassembler. La première émission de la saison début juillet a réuni 2 700 000 téléspectateurs, soit le meilleur démarrage de Fort Boyard depuis 10 ans. Et à une époque où les audiences sont de plus en plus fragmentées, réussir encore à réunir toute la famille un samedi soir devant le petit écran, c'est une véritable performance.
Je trouve ça fou, moi, la meilleure performance depuis 10 ans, alors que c'est une émission qui existe depuis 36 ans. Je trouve ça dingue. Comment on explique ce succès, Maxime? Qu'est-ce que Fort Boyard a de plus que les autres?
Fort Boyard, c'est le rendez-vous de l'été. Les enfants qui regardaient l'émission dans les années 90 sont devenus des parents et la font aujourd'hui découvrir à leurs propres enfants. Mais attention, la nostalgie ne suffit pas. Le véritable secret, c'est que le programme donne l'impression de ne jamais changer alors qu'il évolue constamment. Les repères essentiels sont conservés, le perfora, les clés, les indices, les cellules, la salle du trésor, mais les épreuves, les personnages, les mécaniques sont régulièrement renouvelés.
C'est vrai que ça passe en toute douceur. Cette année, le grand changement, Maxime, c'est évidemment l'arrivée d'une nouvelle personne qui incarne Cyril Ferraud.
Et oui, il succède à Olivier Mine après plus de 20 ans, un passage forcément risqué mais qui s'avère payant. Après, il faut dire que Cyril Ferraud connaît parfaitement les codes de l'émission pour y avoir été stagiaire, candidat, personnage. La production a donc adapté le jeu à sa personnalité sans renier son histoire. Écoutez Cyril Ferraud nous expliquer sur son Insta les nouvelles mécaniques.
Pour entrer dans cette nouvelle ère de Fort Boyard c'est un héritage, donc il faut toujours trouver comment le faire évoluer. Donc la première chose qui nous a paru évidente, c'était de faire évoluer la mécanique, c'est-à-dire maintenant de pouvoir gagner jusqu'à 10 000 euros avant même la salle du trésor. Il y a l'arrivée de l'amiral aussi, le nouveau personnage de cette année qui est complètement barré. Le sacrifice aussi, hein. Donc les candidats se placent dans la tête de serpent géante. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver, ils ne savent pas s'ils vont être sacrifiés. Et quand ils sont sacrifiés, l'effet est tellement fort. Voilà, c'est tout un tas de nouveautés qui vont, j'espère, séduire les téléspectateurs.
Vous l'avez compris, le public veut être surpris. D'ailleurs, les réactions de fans sont particulièrement scrutées par la production. Guillaume Ramin, le producteur artistique, m'a même confié qu'il existait presque 60 millions de producteurs de Fort Boyard. Chacun a son avis sur les épreuves et sur la tenue du perfora.
C'est comme pour l'équipe de France, 60 millions de sélectionneurs, 60 millions de producteurs pour Fort Boyard. Tiens, venez nous dire d'ailleurs au 32-16, hein, si vous trouvez Cyril Ferraud convaincant là dans son nouveau rôle à Fort Boyard, vous nous dites évidemment au 32-16 et sur WhatsApp 0612 424 424, 8h54. On revient avec toi Maxime sur l'annonce de la semaine dans le cinéma français, Canal+, qui va investir près d'un milliard d'euros dans le cinéma français et européen. C'est une bonne nouvelle pour le ciné français, notamment après la polémique à Cannes il y a quelques mois.
Oui, au mois de mai, rappelez-vous, plusieurs professionnels du cinéma avaient signé une tribune dénonçant, je cite, « l'emprise grandissante de l'extrême droite dans le secteur », visant notamment Vincent Bolloré, l'actionnaire de Canal+. Maxime Saada, le patron de la chaîne, avait alors prévenu qu'il ne souhaitait plus financer les films des signataires qui portaient, selon lui, préjudice à l'image du groupe.
Et malgré cette tension, Canal renouvelle donc massivement son soutien au cinéma français.
En effet, la chaîne va soutenir à la fois de grandes productions capables de remplir les salles, mais aussi, et c'est important, des premiers films, de jeunes réalisateurs, des films d'animation ou des projets plus originaux. Elle veut également défendre ce que l'on appelle les films du milieu. Ce sont des comédies, des thrillers, des drames qui ne sont ni de petits films à très faible budget, ni d'énormes blockbusters. Ce sont souvent les projets les plus difficiles à financer, mais le patron de Canal+ a tout de même précisé à l'AFP en début de semaine qu'il restait sur sa position, je cite, « si des gens portent préjudice à l'image de Canal+, on ne financera pas leur film », fin de citation.
Et puis on termine comme chaque week-end avec le générique du jour à reconnaître, Maxime.
Essayez de le reconnaître.
Ah, c'est pas simple.
Ah, tu ne l'as pas, moi.
Non.
L'amour est dans le pré, on me signale. Bah oui, Kevin, c'est Queen, faut qu'elle t'a retrouvé.
Vous n'êtes pas
téléspectateur de L'Amour est dans le Pré.
Non, en tout cas, j'ai jamais regardé L'Amour est dans le Pré.
Vous pouvez le rattraper parce qu'il y a la 21e saison déjà tournée qui sera diffusée à partir du 18 août sur M6. Mais l'émission prépare déjà la suite. Les candidatures pour la saison 22 sont officiellement ouvertes pour les agriculteurs âgés de 25 à 70 ans, célibataires évidemment. Il suffit de se rendre sur le site lamouretdanslepré.fr.
Merci beaucoup, Maxime Guény, en direct comme tous les matins pour toute l'actu média. 8h56. Dans moins de 10 minutes maintenant, les grandes gueules du sport arrivent sur RMC. Ce sera juste après la météo et le journal. À tout de suite.
RMC 7-9, Anaïs Matin.
C'est un samedi classé noir par bison futé. Lucas Pierre est donc là pour vous guider à travers ces bouchons qui existent déjà, Lucas.
Oui, effectivement, c'est compliqué ce matin et particulièrement dans le quart sud-est. Hein, vous roulez très difficilement sur l'A7 entre Lyon et Orange. Ça coince aussi un petit peu plus au sud sur l'A9 en direction de l'Espagne après l'échangeur avec l'A54. Du côté du Pays Basque, le trafic est toujours très ralenti sur l'A63 en direction du sud, juste après Bayonne. Dans le centre, vous roulez aussi difficilement sur l'A75 vers le sud à hauteur 10 soir et de Saint-Ivoine. Et pour ce qui est de l'Île-de-France, ça bouge pas beaucoup. On reste sur des difficultés très localisées sur la 10 à partir de Massy et à l'approche du péage de Saint-Arnoult. Bonne route avec RMC.
Et puis la météo, Anthony Cazemarec, on surveille toujours le sud-est de la France touché, enfin en tout cas sous une vigilance orange.
Exactement, vigilance orange, canicule. Alors c'est un large quart sud-est, hein. On part de la Corse, on remonte sur la Provence, un peu Côte d'Azur, le Gard, jusqu'à Rhône-Alpes et à la Franche-Comté. Dans ces 20 départements, la nuit a encore été tropicale, c'est-à-dire des températures qui sont restées au-dessus de 20 degrés. Et on attend encore cet après-midi entre 33 et 36 degrés, 36 à 39 dans l'intérieur des terres près de la Méditerranée. Une chaleur qui malheureusement va renforcer aussi le risque de feux de forêt avec le Mistral qui souffle dans la vallée du Rhône, 40 km/h en rafale. Le vent de sud-ouest sur la côte varoise, sur la Corse, 50 km/h. Dans le ciel, ce sera souvent ensoleillé avec juste quelques passages nuageux ce matin du sud-ouest au nord-est. Peut-être quelques averses sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, mais aussi sur les Alpes. Un petit risque d'orage sur les Pyrénées et puis des températures qui, en dehors du sud-est, sont certes chaudes mais raisonnables. 22 à Brest, 27 à Lille et à Rouen, 29 à Paris et à Nantes, 30 à Strasbourg et à Nevers.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Très bon samedi 1er août sur RMC, il est 9h.
RMC, Anaïs Matin.
Toute l'info en direct à 9h avec Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous. Dans l'arrière-pays varois, le feu du Gros Bessillon sévit à nouveau. Il est reparti hier, quelques jours après avoir été fixé. Plusieurs communes ont été évacuées comme Montfort-sur-Argent, Carcès, Corins, Châteauvert et Leval. Caroline Renaud, ce matin, le feu, lui, il est toujours actif.
Oui, les pompiers ont passé la nuit à défendre les points sensibles, comprenez les habitations, les bâtiments, tout pour que le feu ne franchisse pas les portes des villages. Au total, 1200 sapeurs-pompiers tentent de stopper le front de flammes ce matin. 6 hélicoptères bombardiers d'eau, 8 canadaires et 2 Dash sont aussi mobilisés, d'autant qu'aujourd'hui les conditions météorologiques sont défavorables. Hein. Des températures élevées, un taux d'humidité faible et un mistral qui se maintient. Plusieurs foyers sont encore actifs et on a des risques de reprise, s'alarme un pompier sur place. Les évaluations aériennes sont encore en cours, mais d'après les premières estimations, près de 1200 hectares ont été ravagés par les flammes.
Caroline Renaud pour RMC. En Gironde, le feu n'est pas fixé, mais les pompiers comptent sur une météo plus clémente pour venir à bout de cet incendie qui a ravagé 42 000 hectares. 6 communes restent toujours vidées de leurs habitants. La préfète de Nouvelle-Aquitaine a toutefois assuré que 90% des 220 000 personnes évacuées ont pu rentrer chez elles. Les campings de Lacanau, eux aussi évacués, sont de nouveau autorisés à accueillir du public, Lucas Laubert.
Camping des Jardins du Littoral, Valentine, bonjour.
Téléphone vissé à l'oreille pour les 3 hôtesses d'accueil du camping.
Bah oui, ça sonne, ça reprend vie.
On a la gorge sèche tellement on part.
Car depuis l'annonce de la réouverture des campings de Lacanau, les vacanciers veulent s'en assurer.
On respire parce qu'on annonce de bonnes nouvelles.
L'équipe du camping a mis les bouchées doubles hier pour que tout soit prêt pour le retour des vacanciers. Bronzette impossible pour l'instant à la piscine. Les 200 bouteilles de gaz étaient stockées ici pour les protéger du feu. Mais maintenant, il faut les réinstaller et c'est Nico qui s'en occupe.
Tout repréparer, faire en sorte que quand ils reviennent, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu.
Faut sortir les bras là.
Ouais, c'est ça, faut sortir les bras, ouais, c'est clair.
Et pour s'assurer que tout est prêt, Myriam Vignol, la directrice, fait le tour du camping dans sa voiturette. Si la fermeture et l'incendie lui ont coûté cher pour la suite de l'été.
Je suis assez confiante. Je pense que justement les vacanciers vont jouer le jeu.
Ils lui disent d'ailleurs au téléphone.
On sait que ça a été dur pour vous et on a envie d'être là pour vous. Et quitte à passer nos vacances quelque part, autant qu'on le fasse chez vous.
Ça fait chaud au cœur, conclut Myriam, une lueur dans les yeux. Cette solidarité, c'est ça qu'elle souhaite garder de l'incendie.
L'intégrité de l'espace Schengen reste absolument garantie. C'est ce qu'assure l'Espagne après l'arrivée de près de 60 000 personnes à Ceuta, enclave espagnole située au nord du Maroc. Madrid assure par ailleurs que près de 50 000 d'entre eux ont été renvoyés vers le Maroc. La France et l'Italie ont, elles, annoncé durcir leur contrôle frontalier avec l'Espagne. Rétro-pédalage pour Gianni Infantino. Cerné par les critiques, le patron de la FIFA renonce à vendre les droits de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. L'annonce a été faite cette nuit. Plusieurs fédérations s'était vivement opposé à ce projet. On va terminer avec OpenAI qui dépasse le milliard d'utilisateurs. Une ascension fulgurante pour l'entreprise moins de 4 ans après le lancement de ChatGPT. En comparaison, il aura fallu 6 ans à Facebook après le lancement de son réseau social pour revendiquer 1 milliard d'utilisateurs. On va terminer avec le quintet. Ce sera sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville à 15h15. Voici le pronostic de RMC. Le favori, c'est le 4 Bazanti. L'outsider, c'est le 7 Hello Avenue. Le 4, le 7.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup Grégoire Morelli. 9h04 sur RMC. Analyse Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, 7h, pour une nouvelle émission.